Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous, non, vous trouvez ça normal?
C'est du verre bouteille!
Allez-vous cultiver scientifiquement! Non,
je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retrait, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie. Je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa et Deezer, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus, médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, on continue à en parler dans les médias indépendants et ici à l'antenne des radios associatives. Actualités, interviews, reportages, mais aussi des ressources, un agenda, de la musique évidemment. Tout ça c'est le programme de Vers des Terres, une émission réalisée bénévolement et qui, pour la dernière de la saison, s'habille d'un vert Peter Pan. C'est une vraie nuance hein, qui porte le nom donc de ce héros qui ne veut pas grandir, puisqu'on va parler d'enfance et d'éducation à la nature, ou comment envisager la question écologique avec nos enfants. Et peut-être que vous le savez, l'émission, elle commence toujours avec une ou des infos repérées pour vous dans l'actualité à la rubrique écologie. Aujourd'hui, pourtant, on va élargir la focale, avec une pensée évidemment pour la jeune Liana, dont le meurtre a déclenché une large mobilisation contre les violences faites aux enfants. Il faut malheureusement un drame pour que le mouvement enfantiste gagne en visibilité et rappelle l'urgence à combattre la plus ancrée des dominations, celle des adultes sur les enfants. Je voulais commencer par ça, car on ne peut pas être écologiste et défendre le vivant sans être féministe, sans être antiraciste, sans être enfantiste. Si on jette un coup d'œil aux droits fondamentaux des enfants répertoriés par l'UNICEF, on retrouve le droit à la protection, le droit à la santé, le droit d'avoir un refuge. Ces droits sont finalement autant menacés par la crise climatique aujourd'hui que par les violences, rappelons-le, essentiellement intrafamiliales. J'arrive au thème du jour, l'éducation à la nature. On pourrait croire que les enfants sont naturellement plus écolos que les générations précédentes. Pourtant, ils et elles vivent dans le même monde que nous, les adultes, sont eux aussi des cibles de la société de consommation. Il apparaît aussi, on le découvrira avec l'invité du jour, que leur sensibilité à la protection du vivant est à relier à celle de leurs parents, plus largement à leur environnement social et à la capacité d'action qui est la leur. Reste que les enfants constituent un public particulièrement fragile face à la menace climatique. Voilà l'info du jour. Elle vient du site Géo, un média dont le groupe est menacé par des suppressions de postes après le rachat par Bolloré au passage. Alors on parle de Géo tant que le titre existe. Réchauffement climatique, les enfants sont les moins responsables mais les plus touchés. C'est le titre d'un papier du 5 juin dans lequel l'ONG World Vision France explique que près d'un milliard d'enfants vivent aujourd'hui dans des pays considérés comme à très haut risque climatique. Que ce soit dans certains territoires africains sujets aux sécheresses à répétition, en Asie aussi, touchée régulièrement par des giga-inondations, le risque, il touche d'abord le corps des enfants. Mais l'impact, il est aussi économique et social, avec par exemple des risques augmentés de décrochage scolaire ou encore de mariage précoce. À une toute autre échelle, évidemment, en France, on peut se souvenir de la vague de chaleur du mois de mai, avec des températures de plus de 30 degrés dans certaines écoles. Cet épisode a agi comme révélateur, un révélateur de l'adaptation insuffisante au changement climatique des bâtiments qui accueillent du jeune public. Pour protéger nos enfants de l'épuisement, des possibles coups de chaleur, c'est pas rien, de nombreux outils existent, des travaux de rénovation thermique à la végétalisation des espaces, en passant par l'adaptation peut-être nécessaire des horaires et des temps d'accueil. Après cette, ou plutôt ces infos, c'est le moment de l'interview Vers des Terres en compagnie de Julien Vitores. En 2025, il a publié « La nature à hauteur d'enfants, socialisation écologique et genèse des inégalités ». Ça a été édité chez La Découverte et on l'écoute nous présenter son travail de recherche.
«
On est à Rennes 2 et je suis invité pour, dans le cadre d'une journée d'études par le CREAD, un laboratoire en sciences de l'éducation, et qui organise une journée aujourd'hui justement pour faire dialoguer des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur des questions d'éducation et d'environnement avec des acteurs du monde associatif, des gens de la collectivité de Rennes, des enseignants, enseignantes, etc., sur ces questions d'environnement, d'inégalité dans l'enfance. Je m'appelle Julien Vitorès, je suis sociologue, enseignant en sociologie à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et je travaille sur la construction des rapports à la nature dans l'enfance. Moi, j'ai grandi dans un bourg rural dans le sud de la France, et je devais me situer sociologiquement, je dirais que je suis issu plutôt de classe moyenne. Ma mère était assistante commerciale et mon père acheteur dans une entreprise du coin. Et ensuite, j'ai fait des études et je suis tombé un peu amoureux de la sociologie. L'origine story de ce travail de thèse, c'est en gros, j'étais étudiant en sociologie, comme beaucoup, je cherchais un sujet, et j'étais passionné d'un séminaire que je suivais de sciences sociales de l'enfance. J'avais pris contact avec Wilfried Ligné, qui est devenu mon directeur de thèse, qui a animé ce séminaire, en lui proposant des sujets pour mon mémoire de M2. C'est lui qui m'a à un moment soumis l'idée de travailler sur la place des animaux dans les cultures enfantines, les représentations, notamment dans la petite enfance, etc. Et c'est partant de cette interrogation-là que j'avais fait mon mémoire de M2 sur les visites aux zoos. Et dans le cadre de ce mémoire, beaucoup de parents me disaient bah, « Évidemment, on les amène voir les animaux parce que c'est la nature. En plus, ils grandissent en ville. » Donc c'était un peu, on pourrait dire, l'énigme de départ de « Pourquoi est-ce que c'est si important de faire voir la nature avec un grand N aux enfants dans quelles conditions, pour quels apprentissages, etc. » Donc j'ai mené l'enquête à partir d'école maternelle. Donc je me suis centré sur les enfants de 3 à 6 ans et plutôt sur les grandes sections, donc 5-6 ans. Trois écoles dans trois contextes différents. Une en contexte rural, celle où j'avais été scolarisé. Deux à Paris, en région parisienne. Une école privée, public très privilégié, et une autre beaucoup plus mixte socialement. Et dans ces trois terrains, j'ai pu mener des observations, à la fois dans le quotidien scolaire et lors de sorties, jardins partagés, fermes pédagogiques, classes découvertes ou autres. Et selon les écoles, ça a duré entre 4-5 mois et 6 mois. En fait, il y a une des écoles où j'ai été sur 2 années de suite, mais c'était parce qu'il y a eu le confinement et donc ça a un peu ralenti l'affaire. Donc un temps relativement long, jamais sur une année complète, mais en tout cas qui me laissait le temps de suivre les enfants, d'apprendre à les connaître en fait, et d'apprendre à comprendre leurs différentes attitudes, réactions, manières d'être, aussi manières d'interagir entre eux dans les groupes d'enfants. Mais aussi à mettre ça en relation avec ce que j'apprenais auprès de leurs parents, de leur quotidien familial. Et donc ça, j'ai fait des entretiens dans les trois contextes avec des parents de différents milieux sociaux. Donc les questions que je posais en entretien avec les parents, déjà, premièrement, qu'est-ce que eux considéraient comme la nature et est-ce que c'était important pour eux dans le cadre de leur éducation notamment ? Quels étaient les différents types d'espaces ou d'expériences de nature que les enfants avaient pu faire à 4, 5, 6 ans ? Si je m'en étais tenu là, il y a des parents qui m'auraient dit bah, pas grand chose. Donc j'avais quand même une sorte de checklist de passage obligé dans lequel j'allais chercher certains éléments un peu canoniques en disant bon, non seulement tel type d'espace, y compris les parcs en contexte urbain, quels en sont les usages, quelles en sont les pratiques récurrentes. Des questions sur la place des animaux, des végétaux dans les représentations, y compris à la télé, dans les livres pour enfants, dans les pratiques des enfants sans forcément qu'ils sortent vers la nature. Et ensuite aussi toute une série de questions sur le rapport à l'écologie. Est-ce que c'était quelque chose qui leur tenait à cœur déjà eux dans leur propre pratique ? Est-ce que c'était un enjeu de transmission, d'éducation ou pas, et sous quelle forme ?
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a donc pas une mais des natures, et peut-être parmi elles une nature qu'on pourrait qualifier d'hégémonique ?
Oui, clairement, il me semble qu'on pourrait dire ça par exemple dans les classes supérieures. Ce qui ressort assez nettement de ces entretiens où les parents avaient souvent beaucoup de choses à me dire et à me raconter spontanément, c'est qu'il y a manifestement une bonne nature, c'est-à-dire une nature qu'il légitime, qu'il convient de faire découvrir aux enfants, Et cette nature, elle est évidemment issue de plein de représentations qui remontent parfois au 19e siècle, voire avant, hein, de ce qu'est une nature pure, sauvage, qui permet de se couper du monde, de se couper des autres aussi, de se découvrir soi, parfois de se dépasser dans un effort de confrontation avec la nature, etc. Donc ça, c'est des définitions qui sont très socialement situées, quoi, de ce qu'est une certaine nature, souvent décrite comme grandiose, que les enfants pourraient découvrir, et ce qui leur permettrait de s'élever en quelque sorte au-delà d'eux-mêmes. Et évidemment, dans d'autres contextes sociaux, il y a des natures au pluriel différentes, déjà parce que cette nature-là, elle n'est pas accessible à tout le monde, et aussi parce que il y a des usages de la nature qui peuvent être distincts, qui peuvent avoir des fonctions plus pratiques ou utilitaires, dans le milieu rural par exemple, hein, des pratiques de la chasse, des cueillettes de champignons, etc., qui ne renvoient pas toujours à cette définition un peu idéale d'une nature grandiose et lointaine.
Derrière une différenciation sociale, il y a un point important du, on va dire, du capital économique en fait qui joue, mais peut-être pas que, aussi relationnel dans les familles.
Complètement. Donc il y a évidemment le capital économique qui joue sur l'accès à certains types d'espaces. La possibilité à ces âges-là d'avoir fréquenté des bords de mer, des montagnes, des forêts, et pas juste une fois, mais à plusieurs reprises, parfois dans différents endroits, c'est évidemment dépendant des conditions économiques, des situations de stabilité financière des familles, etc. De leur temps libre aussi, donc c'est des enjeux matériels très concrets. Mais se jouent aussi évidemment des transmissions symboliques, culturelles, qui sont parfois très spécifiques à certaines familles. Typiquement, dans les familles rurales, c'est pas tout le monde qui pratique la chasse, ou certains ont des connaissances que d'autres n'ont pas. Et plus largement, hein, cette culture de la nature, ce goût de la transmission d'une curiosité un peu naturaliste, ou d'autres formes d'intérêt, hein, l'intérêt esthétique aussi pour les manières de qualifier la beauté de la nature, etc., sont des choses qui se transmettent plus ou moins selon les contextes sociaux.
Est-ce qu'on peut donner peut-être des exemples qui vous ont marqué selon l'école où vous étiez, d'inégalité dans la relation de l'enfant à la nature, voire dans l'appropriation, on en fait un objet plutôt à soi ou plutôt extérieur à soi?
Si je reviens sur l'école de l'Ouest parisien, une école privée où les parents ont tous beaucoup de moyens, les enseignantes le savent, le disent, et disent d'ailleurs que c'est des contextes où les parents sont très exigeants avec le contenu éducatif de l'école. Et c'est un espace où, quand j'ai commencé à enquêter, tous les enfants étaient trop contents de mon sujet. Ah ouais, la nature, j'ai plein de choses à en dire, on lève la main, on cite plein d'exemples très précis, ce que je disais, géographiques, de pas juste j'ai déjà été dans la nature, mais j'ai déjà été à la mer, à la plage, à la canot, j'ai déjà été à la montagne de Gretchen en Suisse, j'ai déjà été... Bref, ce genre de récit d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des enfants qui ont déjà intériorisé l'idée que la nature, c'est pas n'importe quelle nature. Je présente à un moment des images et je les fais commenter justement pour susciter des discussions. Et c'est des images de gens qui se promènent dans différents types d'espaces naturels. Et à la fin de l'activité, l'enseignante vient me voir en disant « il y a tel enfant ». Il m'a dit « oui, mais c'était pas vraiment la nature ». Et elle dit « pourquoi ?» Parce qu'il y avait des gens dedans. Donc avec ce côté, la vraie nature, c'est quand il n'y a personne. Et donc là, c'est déjà souillé un peu par la présence humaine, en quelque sorte. Et dans d'autres contextes, par exemple, les contrastes les plus forts, c'est avec l'école du Nord de Paris, où alors c'est mixte socialement, donc c'est vraiment pas tout le monde dans cette école, mais il y a un certain nombre de familles qui sont en situation de grande précarité, pour la plupart issues de l'immigration, plus ou moins récentes, qui résident dans des logements sociaux à proximité de l'école. Et une grande partie de ces enfants n'ont pas eu toutes ces expériences que les autres parents valorisent, chérissent, etc. Certains les ont eues de manière très ponctuelle, pour certains d'entre eux à l'occasion de vacances, retour au bled, etc., voir la famille. Et dans d'autres cas, c'est uniquement via l'école, par exemple, ou via des associations, justement, éducation populaire, des associations de quartier qui proposent des vacances, des centres aérés, etc., pour des familles qui n'en ont pas les moyens. Mais on voit assez clairement que dans ces cas-là, le rapport à la nature, c'est pas le même. C'est quelque chose d'un peu fantasmé pour ces enfants, qui semble assez lointain, auquel on a accès pas via les parents, mais via d'autres instances, etc. Et typiquement, c'est une mère qui m'explique que son fils, à chaque fois qu'il voit les images de la plage à la télé, il dit « c'est quand qu'on y va à la plage de Corinne ?» Corinne qui est la responsable de l'association et qui leur a permis une fois exceptionnellement d'accéder à cet espace, quoi.
Est-ce que finalement, parce que c'était le point de départ, mais vous avez un peu dévié dans votre sujet de thèse, enfin après votre sujet de mémoire, il y avait une place sur la question des animaux ?
Oui, en fait, comme c'était mon point de départ, j'ai essayé de le garder constamment. Bon, déjà d'une, parce qu'il y a une partie des apprentissages sur la nature, cette catégorie qui englobe, pour reprendre l'histoire naturelle, c'est la faune, la flore, les minéraux, etc. Donc les animaux sont présents, hein, et notamment dans les apprentissages à l'école maternelle du vocabulaire. Mais moi-même, dans mes dadas de recherche, on pourrait dire, j'ai proposé aux enfants un jeu de cartes dont une partie était orientée. C'était des photos d'animaux et je leur demandais de me dire lesquels ils reconnaissaient déjà, mais lesquels ils préféraient, pour quelles raisons, lesquels ils n'aimaient pas et lesquels ils avaient déjà vu en vrai, à quelles occasions, etc. quoi. Et ce jeu de cartes sur la base des préférences des enfants pour différents animaux, j'en ai construit le tout dernier chapitre de l'ouvrage qui porte là-dessus plus spécifiquement, quoi.
Et avec, on va dire, des classes socialement favorisées qui ont plus d'animaux de compagnie, de temps, d'expérience d'observation d'animaux.
Alors, sur les animaux de compagnie, ça dépend vraiment des contextes, là pour le coup urbain-rural. Par exemple, dans le contexte rural, c'est pas si clivant en termes de classe que d'avoir un animal de compagnie. C'est plus le cas en ville, en fonction des conditions de logement, en fait, notamment. Mais plus spécifiquement, toutes les activités qui conduisent à aller vers des fermes pédagogiques, des zoos ou autres manières de découvrir les animaux, mais aussi d'avoir des supports culturels, donc des livres sur, des encyclopédies qui permettent de comparer les animaux entre eux, savoir lesquels, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez clivant ou classant, en tout cas socialement. Et ce que je retrouve, moi, dans mon jeu de cartes adressé aux enfants, c'est non seulement que les enfants des classes supérieures souvent connaissent plus d'animaux que les autres, mais c'est aussi pas les mêmes manières d'apprécier les animaux. Par exemple, alors c'est très genré dans le jeu de cartes, dans les réponses des enfants, hein, les filles et les garçons n'aiment pas les mêmes animaux et pas pour les mêmes raisons. Mais par exemple, les filles des classes supérieures ont plutôt tendance à valoriser les animaux qu'elles trouvent beaux, en mobilisant parfois des critères esthétiques très précis, en disant c'est pour ses taches, la forme de sa carapace, les couleurs, etc. Là où dans les classes populaires, les filles ont plutôt tendance à valoriser les animaux gentils, doux, qui témoignent, il me semble, plutôt de qualités qui renvoient à cette notion de care. Donc en gros, deux aspects, on pourrait dire, de la féminité au sens social canonique du terme. Et dans les réponses des garçons, il y a aussi des différenciations de classe au sein des réponses des garçons, où les garçons des classes populaires répondent plutôt qu'ils aiment les animaux qui sont forts et rapides, donc des qualités, on pourrait dire, athlétiques, là où les garçons des classes supérieures valorisent des animaux qui ont des compétences ou des techniques. Ils savent se défendre parce qu'ils ont une carapace, parce qu' ils ont des griffes, du venin, ou telle aptitude, par exemple le serpent qui sait étrangler les autres animaux.
Qu'est-ce que vous avez observé de ce qu'on dit de la nature dans le cadre scolaire ? Est-ce que ça s'appuie sur cette vision, cette nature-là hégémonique ?
Alors, ça, à la fois, ça la valorise grandement, hein, puisque les expériences, la connaissance de ces différents types d'espaces, la mer, la montagne, la forêt, les différentes choses qui les composent, savoir c'est quoi les animaux de la forêt, etc., c'est des choses qui peuvent faire très régulièrement partie des apprentissages à l'école maternelle et qui sont donc effectivement consacrées, en quelque sorte. Plus largement, la nature scolarisée, c'est plus spécifiquement encore une nature qui est un objet de connaissance. Donc, apprentissage du vocabulaire sur la faune et la flore, apprentissage de la classification aussi, savoir relier les animaux, les espèces à leurs espaces, savoir associer les espèces ensemble, etc. Autant de connaissances qui sont parfois présentées comme des connaissances élémentaires, c'est-à-dire il faut au moins savoir distinguer je sais pas, une vache d'un poney ou ce genre de choses qui sont un peu omniprésentes dans la culture enfantine, dans les livres, etc. Et pour autant, ce que j'observe, c'est que c'est présent dans toute une culture enfantine, mais ça repose du coup sur des apprentissages. Ça, c'est une culture qui se travaille, qui est plus ou moins transmise aussi selon les contextes familiaux et qui du coup, ça se voit aussi à l'école, quoi.
Les enfants ne se retrouvent pas égaux face à ce sujet-là à l'école.
Ouais.
Quelles conséquences concrètes ça peut avoir pour eux ?
À l'école maternelle, une grande partie des activités, et c'est logique au fond, hein, c'est des âges d'apprentissage du vocabulaire, on apprend à parler. Et donc la question, c'est qui sait nommer les choses, quoi. Et beaucoup d'activités ordinaires, même quand c'est pas une activité sur le vocabulaire ou de vocabulaire, passent par quelqu'un sait ce que c'est ça, qui peut nommer, qui reconnaît, etc. Et donc ce questionnement permanent, ce sort de cours dialogué, en fait certains enfants ont toujours ou en tout cas beaucoup plus souvent que les autres, la bonne réponse, et sont donc en situation non seulement de se distinguer dans l'espace scolaire et de prendre confiance en quelque sorte, hein, d'être à l'aise, puisqu'on revoit à l'école ce qu'on a déjà vu dans son quotidien familial, et en plus de ça, c'est aussi être parfois dans la posture de ceux qui sont capables d'identifier les erreurs des autres, voire de les signaler, de dire « bah non, c'est pas ça », etc. Donc c'est... Voilà, c'est à ce niveau-là, hein, c'est à ce niveau des premiers apprentissages de la capacité à nommer le monde. Il me semble que les expériences relatives à la nature, elles viennent différencier les enfants à l'école maternelle, quoi.
On a déjà parlé, on va dire, des enjeux de discrimination, ouais. Mais je me pose la question, est-ce que dans vos travaux, vous avez pu peut-être vous questionner sur les enjeux autour de la santé mentale ou les questions de sédentarité aussi, mmh. Est-ce que ces rapports différenciés à la nature peuvent avoir en fait des conséquences très concrètes sur la vie de certains enfants, quoi.
Bah alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent dans toute une série de travaux, hein, en psychologie de l'environnement, sur... les multiples bienfaits de certains espaces naturels, et en l'occurrence moi j'ai pas vraiment les moyens et les outils avec ceux de la sociologie d'appuyer ou d'infirmer ce genre de constat, simplement de montrer que en tout cas tous les enfants ont pas les, en particulier tous les parents ont pas les mêmes moyens de faire bénéficier à leurs enfants de certains de ces bienfaits de la nature, quoi.
Votre travail, il a été quand même beaucoup médiatisé, je trouve, au moment de la sortie du livre La nature au cœur d'enfants. Il y avait certains commentaires qui étaient quand même assez récurrents de finalement pointer la responsabilité individuelle des parents à devoir fournir un effort pour rattraper ce qui serait un manque. Est-ce que le sociologue a besoin de répéter encore et toujours qu'on est au-delà des responsabilités individuelles?
Ah, complètement. J'ai effectivement aussi identifié quelques retours, commentaires. Rarement qu'on me fait directement, mais effectivement parfois dans les commentaires, bah oui, mais pourtant il suffit d'eux. C'est quand même pas compliqué de faire apprendre à ses enfants, de leur faire voir ci et ça. Et ça, il me semble que c'est une des vertus de la sociologie, pas forcément de le rappeler pour corriger les gens, mais simplement de donner à voir en essayant de se mettre à la hauteur, pas juste des enfants, mais aussi de leurs parents, à la hauteur des gens, en essayant de comprendre aussi quelles sont leurs préoccupations dans le quotidien, de voir que ce qui peut sembler parfois simple, c'est-à-dire typiquement parfois l'idée de la nature, bah, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de grand-chose. D'une, c'est pas si gratuit que ça. On en discutait tout à l'heure dans un séminaire avec des éducateurs, des éducatrices, mais il y a un slogan qui revient beaucoup dans les pédagogies par la nature, par exemple, c'est « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements ». Mais typiquement, c'est quoi les bons vêtements? Combien ça coûte d'équiper tous ces enfants, quand on a une famille nombreuse, par exemple, pour les mettre dans de bonnes conditions, pour pouvoir ne pas se préoccuper de se salir, par exemple, dans la boue, etc. etc. C'est des choses qui peuvent sembler anodines, mais qui, à mon avis, ne le sont pas. Et puis plus largement, investir la nature comme un espace éducatif, se sensibiliser, pour reprendre des termes qui circulent beaucoup, s'y connecter, etc., ça suppose aussi un certain rapport au temps, au loisir, au temps libre que tous les parents ont pas selon leurs conditions sociales, quoi.
Le métier du sociologue, c'est pas forcément de dérouler un plan d'action pour changer les choses. Ça aussi, j'ai l'impression que vous devez le répéter. Vous appelez avec ce travail à repenser l'éducation à la nature. Est-ce que vous pouvez me redire ce que vous avez vu, ce qui se faisait déjà à l'école, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin?
Il y a plusieurs choses, je donne juste des pistes de réflexion dans la conclusion de l'ouvrage. C'est premièrement déjà avoir des pratiques pédagogiques, mais ça je sais qu'il y a plein de gens qui réfléchissent en sciences de l'éducation et pas que, mais qui ne partent pas que de définitions institutionnelles légitimes de ce vers quoi on voudrait faire aller les enfants, ce qui est quand même important par plein d'aspects, mais aussi savoir partir de ce qui fait le quotidien, de l'expérience des enfants dans toute leur diversité, et de se donner les moyens de valoriser les expériences des enfants quelles qu'elles soient, même si elles correspondent pas au canon de la cabane qu'on a construit pendant le week-end dans la forêt derrière la maison de papy et mamie. Je schématise un petit peu, et du coup de pas sacraliser non plus trop cette nature avec un grand N, etc., mais de laisser la place à une grande variété d'expériences enfantines. Et l'autre partie de ma réponse, c'est aussi de dire les éducateurs, éducatrices, les enseignants et enseignantes ne peuvent pas tout, Et on peut pas non plus faire reposer sur l'école ou sur d'autres instances éducatives la responsabilité de corriger toutes les inégalités, et donc aussi de s'interroger sur c'est quoi la cause de tout ça, quels sont les leviers sur les inégalités, alors de redistribution évidemment, des grands enjeux de les ressources dont disposent les familles de milieux populaires, mais aussi des questions sur le temps de travail, la liberté d'avoir du loisir et de pouvoir l'investir avec ses enfants, des questions d'aménagement aussi, de qu'est-ce qui rend les espaces facilement accessibles, disponibles pour toutes les familles, et que ça soit pas un luxe entre guillemets que pour les plus privilégiés.
Il reste encore quelques minutes si vous le souhaitez, s'il y a un point qu'on n'a pas assez évoqué qui vous semble important.
Juste un sur lequel on n'est pas revenu, mais c'est la question du genre, qui est aussi assez transversale et que pour le coup j'observe dans les trois contextes. Et là aussi, quand j'en parle avec des enseignants, enseignantes ou des éducateurs, éducatrices, ça ne surprend personne. C'est une question qui est au cœur des enjeux éducatifs contemporains. C'est comment ne pas renforcer certains stéréotypes de genre, certaines différences qui se transforment assez rapidement en inégalités. Parce qu'il y a, par exemple, moi, de ce que j'ai observé, une façon plus enthousiaste des garçons, par exemple, dès la maternelle, de mobiliser les outils, les pelles, les râteaux, quand on a une activité en extérieur. Et à l'inverse, une tendance qui rejoint des constats assez classiques, des filles à valoriser plutôt les activités de care, de soins apportés à la nature, ce qui peut, à l'âge adulte, devenir une sorte de responsabilité ou une injonction qui pèse sur les femmes. Alors, mon travail, là aussi, il donne pas des recommandations clés en main, mais je trouve que c'est intéressant, le regard sociologique, de poser à plat les différents facteurs qui viennent contribuer, dès ces âges-là, à ce que certains usages de la nature soient plutôt connotés comme masculins ou féminins, à la fois dans la littérature, les représentations que les enfants ont au quotidien. Je disais, un bûcheron, ceux qui coupent les arbres, c'est toujours une figure masculine ou quasiment dans les représentations qu'ont les enfants. Aussi dans ce que font les parents, quand c'est en tout cas les couples hétérosexuels, ce que font les pères et les mères, et c'est souvent assez stéréotypé. Et puis ensuite, c'est interroger, là aussi, dans les pratiques pédagogiques et éducatives, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour ne pas renforcer certains de ces stéréotypes, penser la diversité des activités, la mixité ou non-mixité des groupes d'enfants quand ils jouent, quand ils sont amenés à travailler sur tel ou tel support, etc. Voilà. Burn the streets, burn the cars, power, power.
Pup Power, c'est le morceau que vous venez d'entendre, un morceau du duo américain Dead Man Bones, composé de Ryan Gosling. Son nom vous dit peut-être quelque chose, et oui, il ne fait pas que jouer dans des films. Donc Ryan Gosling, mais aussi Zach Shields. Ils ont sorti ensemble un album en 2009, et sur lequel on entendait ce cœur d'enfant du conservatoire de Silver Lake. Vous écoutez l'émission Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa ou Deezer, selon l'espace où vous vous êtes confortablement installé. Êtes-vous dans votre voiture, dans un canapé, peut-être en train de cuisiner? En tout cas, on passe au reportage de l'émission. Un article de Reporter publié en 2023 expliquait pourquoi les enfants grandissent mieux dans la nature, et dans la nature quelle qu'elle soit. Par nature, on entend en fait le lieu de rencontre entre un humain et du vivant non humain. En bref, aller dans la nature permet, je cite, de diminuer le stress, augmente la capacité d'attention, le calme, fluidifie les relations sociales, permet de faire du sport aussi. Alors si c'est bon, il faut tout faire pour en offrir plus, et à tous les enfants. Le reportage qui suit est en deux parties, qui ont en commun de présenter des initiatives d'éducation à la nature. Premier stop au terrain d'aventure de l'Allumette, dans le sud de Rennes. En ce moment, les mercredis et samedis après-midi, les enfants sont libres de venir s'y amuser et même de prendre des risques, vous allez entendre. Puis c'est une initiative individuelle, à l'échelle d'une famille même, que nous raconte Clémence, qui part chaque été en vacances à vélo avec son conjoint et ses deux enfants sur les routes et les chemins de France et d'Europe. Alors je suis curieuse de savoir ce que vous faites.
Elle veut faire une piscine, je sais pas pourquoi.
Vous faites une piscine ?
C'est pas moi, c'est son idée.
Mais tu l'aides ?
Oui.
Donc vous avez ramené un mètre, une scie, il y a quoi d'autre ? Un marteau et une énorme pelle.
Donc on est dans le parc Marc Sangnier, au sud de Rennes. Et on est entre différents quartiers. Donc c'était une volonté de l'association L'Allumette de positionner le terrain d'aventure exactement là où il est. Nous, on dit qu'on est dans une petite forêt, donc il y a plein d'arbres. Voilà, on est plutôt aussi un peu à l'abri des regards, du coup, donc c'est cool. Les enfants, les jeunes, ils aiment bien aussi que les arbres protègent aussi des regards extérieurs. Je suis Morgane Cardino, je suis coordinatrice animatrice du terrain d'aventure, et donc on est salarié de l'association L'Allumette. Donc l'Allumette, c'est une association d'éducation populaire qui s'est créée en 2015. Et c'était plutôt des amis qui étaient professionnels de l'éducation et du travail social, qui avaient envie de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas forcément faire dans leur structure, où parfois c'est quand même assez cadré. Voilà. Donc il y a eu pas mal de choses de fait, des conférences gesticulées, des apéros géopolitiques, et donc le terrain d'aventure dans tout ça. En fait, il y avait cette volonté à la fois des instits du quartier qui étaient aussi proches de l'Allumette, des éducateurs, des animes, des parents qui voulaient un espace à l'extérieur pour que les enfants puissent bricoler. C'était un peu ça à la base. Et donc, en parallèle, il y a donc Esteban, un des fondateurs de l'asso, qui est allé à Hambourg, et c'est là où il a rencontré les terrains d'aventure. Il parle souvent de cette première image d'un jeune enfant qui court avec une scie, et que direct il a voulu aller l'arrêter, et qu'en fait on lui a dit mais non, ici les enfants font ce qu'ils veulent et surtout prennent des risques. Et donc c'est comme ça un peu que l'Allumette s'est intéressée à d'autres pédagogies alternatives, en tout cas de ce qu'on peut faire habituellement dans les structures ou dans l'éducation nationale. Et donc il y a eu cette recherche-action de 3-4 ans autour de la pédagogie du risque et de la pédagogie du dehors aussi. A été embarqué un peu tout le monde dans le quartier, porte à porte, aller voir aussi les écoles, forcément les élus, les techniciens dans les services de la ville. Et en fait, Esteban notamment, quand il est rentré en France, en fait, ça a déjà existé, en fait, les terrains d'aventure en France dans les années 70-80. Et donc pareil, ça a été de retrouver des gens qui travaillaient là-bas, même des gens qui ont connu ça en tant qu'enfant. Donc bref, le terrain a ouvert en avril 2021. Qu'est-ce qu'on défend à travers le terrain d'aventure ? C'est de redonner une place aux enfants dans leur quartier, dans leur environnement, et de pouvoir donc avoir accès au dehors, à ce qu'on appelle la nature, et surtout de pouvoir transformer leur environnement. Ce qu'on peut voir dans ce qui est proposé aux enfants, c'est que, par exemple, il y a les aires de jeu qui existent et qui répondent à des besoins. Mais en fait, ces aires de jeu, on ne peut pas les transformer. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux enfants, ici, de transformer cet espace qui leur est complètement dédié. Donc, il y a des petites barrières autour du terrain d'aventure. On est dans un parc. Et donc, tout est aménagé pour que les enfants puissent se saisir de tout ce qu'ils veulent. Donc, on va mettre à disposition du matériel. Donc, là, par exemple, là, je vois des livres, mais il y a aussi des outils, marteaux, scie, hache, des pinces, tout un tas de choses pour bricoler. Donc, on a beaucoup de bois, beaucoup de palettes. Mais il y a aussi des chaises, des tissus, des pneus. On récupère énormément de choses. On a aussi parfois de la peinture. Bref, on a tout un tas de matériel et qui est mis à disposition des enfants pour qu'ils puissent s'en ressaisir. L'idée, c'est d'avoir tous les éléments. Donc, il y a aussi l'élément terre qui est super important. Donc là, il y a une petite maison en terre qui se construit, qui se détruit en fonction de qui est là et de ce qui se passe. En fait, on contraint les enfants à même pas jouer avec la terre parce que ça salit. Donc, pour les enfants, direct, il y a ce truc de « mais je vais me salir quand je vais rentrer à la maison » et tout ça. Donc, on a des tabliers, par exemple. On a des grandes blouses pour qu'ils puissent être à l'aise à se salir sans se faire disputer quand ils rentrent à la maison. On arrive au beau jour, les fenêtres sont ouvertes, donc on évite, pour pas trop déranger les voisins, de faire du feu. Mais on va dire que tout l'hiver, on fait du feu. C'est vraiment autour du feu que se concentrent un peu les activités. Donc, on a ouvert en avril 2021. On était vraiment période Covid et je crois qu'on était encore un peu en confinement. Donc, on était un des seuls endroits un peu structure d'ouvert. Et en fait, ça a très vite pris. Et aujourd'hui, on est plutôt bien implanté dans le quartier, dans la vie des enfants, des familles du coin, mais aussi plus largement de Rennes. Et même là, on est même à une échelle un peu départementale où des familles viennent de plus loin pendant les vacances. Il y a un fort rayonnement. Parce qu'en fait, le fait que les enfants puissent faire ce qu'ils veulent, que c'est pas les adultes qui décident, il n'y a pas de programme d'activité, il n'y a pas d'inscription, on a des horaires d'ouverture, 14h, 18h, et tu viens et tu pars quand tu veux. Donc il y a très peu de contraintes, en fait. Les parents nous parlent aussi de qu'il n'y a pas de pression sociale ici. Je reviens à la saleté, par exemple. Hier, j'en parlais avec une mère qui me disait, en fait, ça fait du bien aussi en tant que mère de pas avoir cette pression-là. Bah ouais, mon enfant, il court, il crie, il salit, et je vais pas avoir ces regards, ou en tout cas, je vais pas avoir cette pression de dire, mais non, vraiment de contraindre les enfants aussi à pas faire des choses. Et donc, c'est ça aussi que ça permet, et c'est aussi pour ça qu'il y a des familles qui aiment bien passer du temps ici. Il y a des cabanes, donc c'est les enfants qui construisent leurs cabanes, et c'est des cabanes qui vont être hautes, c'est des cabanes qui peuvent nous sembler dangereuses. Le premier réflexe quand on vient en terrain, c'est tout est dangereux, de par les scies, les haches, les cabanes, le feu, tout ça. Donc nous, notre pédagogie, c'est la pédagogie du jeu libre et risqué. En fait, ces pédagogies-là, ce que ça montre, et en Allemagne, en Angleterre, les terrains d'aventure existent depuis 40-50 ans. Donc on a aussi le recul nécessaire et les recherches aussi qui montrent que laisser les enfants libre d'expérimenter, de prendre des risques, leur permet de mieux se connaître, de prendre confiance en eux. Enfin, c'est super intéressant et super chouette à regarder. La coopération, prendre des risques permet d'éviter le danger, de connaître ses propres limites et de pouvoir, en fait, souvent, le réflexe des adultes, quand va y avoir un risque, on va directement penser à la pire chose qui peut arriver. Et surtout quand il y a des enfants en jeu. Alors qu'en fait, on oublie toutes les étapes qu'il y a entre un danger, en fait. Et ce qu'on peut voir, c'est que les enfants, déjà, ne sont pas débiles. Moi, j'ai jamais vu d'enfants se mettre en danger. Même des enfants, on entend, avec des comportements difficiles, je n'ai jamais vu d'enfants se mettre en danger. Et il y a un apprivoisement dans le risque. Un enfant de 3 ans qui arrive et qui n'a jamais grimpé de sa vie, il ne va pas monter directement tout en haut. Il va y avoir plein d'étapes. Il va d'abord monter 2-3 marches. Et puis ensuite, déjà là, il y a plein d'émotions qui se sont passées. Donc voilà, à son rythme. Et c'est très important, chacun à son rythme. Il va revenir le lendemain ou une semaine après, et puis il va monter un peu plus haut. En fait, il y a tout un tas d'étapes Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit, par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup moins d'accidents dans des terrains, dans des espaces où les enfants peuvent prendre des risques, où ils sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire, de choisir avec qui ils ont envie d'être ou de pas être. On voit qu'il y a beaucoup moins d'accidents dans ces espaces-là que dans des cours d'école, par exemple, où voilà, c'est pas les mêmes choses qui sont proposées aux enfants.
En fait, je viens tout le temps au train d'aventure. Ça fait 3 ans, je pense, que je vis en train d'aventure. Quelquefois, c'est pour des sorties, ou ça, c'est pour s'amuser. On plante des choses, ou ça, on fait construire des cabanes, on s'amuse avec la terre, on se balance, il y a des balançoires et tout et tout.
Tu viens toutes les semaines ?
Tous les jours quand c'est ouvert.
Donc tous les mercredis et tous les samedis, en ce moment, tu es là ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit ici et que toi, tu as peut-être participé à construire ?
Bah, les plantes qui sont derrière, là-bas.
Et c'est quoi que vous avez planté ?
Du maïs, des tournesols et d'autres choses que je m'en souviens plus.
Avant de venir au terrain d'aventure, est-ce que tu avais déjà utilisé des outils ? Est-ce que tu savais t'en servir ?
Non, parce que au début, je connaissais pas très bien. Du coup, j'ai dû passer une sorte de permis, tu construis des choses. Et après, si tu arrives et qu'ils voient que tu te débrouilles assez bien, bah, tu gagnes un permis construction, un truc comme ça.
Il y a d'autres endroits, un peu de nature, dans lesquels tu aimes bien aller ?
Bah non, c'est celui-là que j'aime parce qu'il n'y a que celui-là.
Vous faites quoi ?
C'est un peu tôt pour les ponts.
Parce que quand on marche dessus, de base, ça craque.
Ah.
On a vu ça quand on est venu. Et du coup, bah, on voudrait faire un support.
Donc, il y a une énorme cabane et une deuxième cabane que vous voulez relier par un pont qui a besoin d'être consolidé, quoi.
C'est l'heure de quitter le parc Marc Sangnier à Rennes pour franchir la porte de la maison de Clémence. On est toujours à Rennes. Avec sa fille Agathe, elle nous raconte leurs vacances à bicyclette et les intérêts que tout le monde y trouve à se promener et là même à se déplacer dans la nature en extérieur.
Bonjour, je m'appelle Clémence, je suis maman de 2 enfants, donc Agathe qui a 12 ans et Gaspard qui a 10 ans. Et depuis quelques années, on pratique le voyage à vélo en famille.
Il y a peut-être un compagnon.
Et un compagnon, un mari, bien sûr. Vivien.
Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 12 ans et demi, je suis en 5e. J'aime bien la danse et j'aime bien lire aussi.
Je te demanderais bien de décrire ton vélo, il ressemble à quoi ?
Il est jaune, il s'est rousse, c'est du 26 pouces, il a un porte-bagages et il a 3 plateaux aussi. Et il a 7 vitesses.
Alors, on fait des voyages à vélo depuis 2021 et l'objectif, c'était de faire quelque chose ensemble qui sorte des vacances en famille classiques avec les grands-parents et les cousins et qui nous permette de reconnecter tous les 4. Et le vélo, c'était quelque chose qu'on pratiquait au quotidien mais qu'on n'avait pas expérimenté en itinérance. Donc, on s'est dit, bah pourquoi pas. Le premier voyage, c'était 12 jours sur la Vélodyssée. L'objectif, c'était d'être autonome. On n'avait pas de soupape ou de remorque pour pouvoir mettre le vélo, de bar comme le Follow Me. Donc c'était un peu le challenge. On savait qu'il ne fallait pas dépasser 30 km par jour et qu'il fallait autre chose que juste pédaler. Ce n'était pas l'exploit sportif, c'était juste un moyen de se déplacer et d'être dehors. Et du coup, on est parti comme ça, chacun son vélo. Il n'y avait que nous qui portions les bagages. Avec une tente, l'objectif c'est de camper. Et puis, de pouvoir alterner une journée vélo, peut-être une journée visite, une journée vélo. C'était ça le point de départ. On a gardé cette philosophie de camper et de pouvoir alterner les modes d'hébergement, parfois dans le jardin de quelqu'un ou en camping ou une cabane dans un camping. Et de temps en temps en dur, quand voilà, les journées ont été un peu rudes et qu'il a beaucoup plu. Et cette première année, il a pas mal plu sur la Vélodyssée. Le premier bilan, c'est que à partir du moment où on est, nous, à peu près sereins, les enfants suivent. Ça, c'était important parce qu'à ce moment-là, Gaspard, il avait 5 ans. Donc, il était quand même petit. Il terminait la maternelle. Agathe en avait 7. Donc, on est parti, je pense, un peu inconscient aussi, en se disant qu'on allait y arriver. Que c'était important qu'il soit responsable de quelque chose. Donc, de porter la baguette pour le pique-nique sur leur porte-bagages, de les intégrer vraiment dans le voyage et ce qu'on allait faire de la journée. Et puis de garder du temps pour se baigner, faire des châteaux de sable, continuer à jouer et ne pas en faire quelque chose de sportif.
Je ne sais plus trop ce que j'ai pensé sur le moment, mais je sais que j'avais beaucoup aimé ce voyage. Enfin, je n'étais pas trop fatiguée, je garde plutôt un bon souvenir.
On en a fait un chaque année et on a alterné la France et l'Europe. Donc l'année d'après, 2022, on est parti en Hollande. Donc là, le challenge était un peu différent parce qu'il fallait prendre le train de nuit. Et donc on est parti sur les Waterland pendant 15 jours. Et là, c'est un pays qui est fait pour le vélo. Donc en fait, tout est plat. On va dans les campings sans réserver. Tout est facile, c'est beau. On a tous des images des moulins hollandais, tout ça, du Gouda, de les dames. Donc voilà, c'était d'aller voir tout ça. Voir un peu aussi l'Europe en dehors des livres, ça c'était important pour nous. Agathe, elle est très sensible aux cultures et aux langues. Elle s'est lancée quelques années après dans l'allemand, donc ça nous semblait intéressant aussi d'aller les confronter un peu à autre chose. Et puis en fait, c'est aussi une façon d'aller échanger et rencontrer d'autres enfants, parce que dans les campings c'est aussi ça, on rencontre plein de monde, on échange, même si on ne parle pas la même langue. En fait, les enfants, ils ont cette facilité à échanger, à jouer entre eux. Pour ma part, c'est le plus beau voyage en vélo que j'ai fait.
Donc 2022, c'était les Pays-Bas.
Ouais. 2023, c'était Rennes-Arzal. Parce que l'objectif, c'était d'aller voir l'embouchure. Et ça, c'était vraiment super. C'était une façon de découvrir les paysages proches de chez nous. L'année d'après, c'était l'Autriche. Ben, l'été dernier. Voilà, l'Autriche, le bord du Danube. Là, pareil, tout est fait pour le vélo. Et cette année, on en a fait même un deuxième à Pâques. On a fait Rennes-Saint-Malo.
Mon préféré, c'était celui de l'année dernière où on a fait les bords du Danube. C'était vraiment bien. Et j'ai bien aimé, on est allé dans un petit village, dans ce voyage qui s'appelait Spitz. Et il faisait du vin, il y avait beaucoup de vignes. Et on avait vu des ruines, et on avait pu marcher dans les ruines, et il faisait beau, il y avait du soleil. Et après, on est allé au restaurant dans un endroit où il n'y avait que des gens du coin. Et on avait une vue sur les vignes, il y avait des gens qui mangeaient dans les vignes, et c'était très bon.
Est-ce que de faire des voyages à vélo, ça implique d'avoir quand même un temps de récupération quand on rentre de vacances?
Plus ça va et moins c'est quand même éprouvant physiquement, parce qu'ils sont quand même plus grands, plus autonomes, et qu'on n'a plus qu'une tente alors qu'avant on en avait deux, et on était beaucoup sur de la logistique, donc c'est moins fatigant. Après on rentre, oui, peut-être un petit peu fatigué, en tout cas heureux de retrouver un certain confort, ça c'est vrai, mais avec tellement de bons souvenirs et de choses différentes que finalement, on est de toute façon content et on repart toujours. Après, on est content d'avoir quelques jours au même endroit pour terminer nos vacances.
C'est quoi la plus grande différence avec le type de vacances que vous pratiquiez avant les voyages à vélo ?
D'être juste nous quatre. Et d'avoir ce luxe de pouvoir faire ce qu'on a envie tous les quatre, à notre façon. De trouver un mode de vacances qui nous font du bien, qui nous sent, on se sent vivant en fait. Et de le faire avec les enfants, c'est de les voir aussi évoluer, se rendre compte qu'ils grandissent, ils gagnent en autonomie. On aime être dehors, et donc on est dehors toute la journée. Et en fait, même si aujourd'hui, ils sont plus grands, ils aiment découvrir la forêt, ils vont s'arrêter parce qu'il y a une cascade. Donc il y a toujours cette espèce d'émerveillement et qu'on a aussi, du coup, puisqu'avec leurs yeux, on découvre des choses un peu différemment. L'avantage des voies cyclables, c'est qu'on peut être à côté. En même temps, on peut être chacun l'un derrière l'autre et rêvasser. On ne se dit pas les mêmes choses. Donc, il y a tout ça aussi, je trouve, sur le lien familial. C'est un moment où on reconnecte, en fait, tous les quatre.
Moi, j'aime bien rêver, imaginer des choses. Mais je discute aussi avec maman. Je discute avec papa. On se raconte nos livres. Ou je joue avec Gaspard. On regarde le paysage. On observe des choses. On s'arrête. On peut prendre une petite pause si on a soif. Donc, oui, c'est plutôt bien.
Quand il pleut, on pédale ?
On pédale. On est bien équipés. Je crois que c'est une des premières choses qu'on a achetées. Donc, on a tous un pantalon de pluie, un manteau pour la pluie. Après, dans ces cas-là, on trouve un petit objectif. Ça va être, on s'arrête au prochain village et on va prendre un café chaud. Ou la dernière fois, quand on est allé à Saint-Malo, ça nous est arrivé. On était fatigués. Il fallait qu'on arrive à Dinan. Et puis, on s'était dit, au prochain village, on va s'arrêter au chaud, prendre un petit café et se sécher. Et puis, en fait, il n'y en avait pas. Et un food truck est apparu sur le bord du canal. On s'est arrêté, il pleuvait, mais c'est pas grave. On a pris une petite galette. Et en fait, voilà, c'est toujours trouver le petit truc qui va remettre un peu d'énergie, redonner le sourire. Et puis, ça repart.
La prochaine destination, c'est quoi ?
La prochaine destination, c'est l'Angleterre. Donc, on part de Roscoff. On prend le bateau et on va dans la région du Devon jusqu'à Plymouth. Donc là, c'est 3 semaines, il y a plus de dénivelé, mais il y a une raison à cela, c'est que l'été 2027, on a décidé de partir 3 mois, avec un projet un peu plus costaud, pédagogique. Enfin, on est en train de le construire, mais du coup, on s'était dit, bah, il faut aller tester une destination peut-être un petit peu plus sportive, effectivement, avec un peu plus de dénivelé.
Si vous songez à tenter les vacances à vélo ou que vous êtes juste curieux de suivre les aventures de Clémence et sa famille, il y a un blog, lapetitefamilleavelo.fr, ainsi qu'un compte Instagram. Vous y retrouverez des articles pour, par exemple, préparer son départ, trouver des idées d'itinéraire ou encore lire les chroniques des enfants Agathe et Gaspard.
Ma sœur, pourrais-tu me dire tout ce qu'il y a à savoir sur les fleurs? J'ai creusé la terre, j'y ai plongé mes mains, mais je reste sans savoir. Oh ma sœur, mon cœur, je pense à ton rire de toutes les couleurs,
la, la, la.
Comme un jardin fleuri.
J'ai cueilli des fleurs bleues et jaunes pour te faire un jour une couronne. Elle sera tressée de mes mains. Quand j'ai peur, c'est toi que j'appelle. Tu es loin, mais j'entends ta voix. Quand je pleure, tu es près de moi. Quand je chante, tu chantes avec moi.
La seule amie qui parle sans murmurer. Pour toute la vie, depuis que nous sommes nés. La seule fleur. L'odeur me vient tonner. Toi le lilas, et moi ta sœur d'oranger.
Toi
le lilas,
et moi ta sœur d'oranger.
Ma sœur, c'est beau de se dire qu'on a tant traversé, main dans la main. Le jour comme la nuit, tu es. Les peurs de mon cœur agitées. Mais oh amour, est-ce que tu veux venir jusque dans mes bras comme un bouquet de fleurs?
Quand tes yeux regardent comme les miens, ton précieux reflet chaque matin. Ma sœur, tu vois que tu es radieuse, alors tu fais éclore ton jardin. Toi et moi, si on est sans maman, je deviendrai la tienne sans réfléchir. Je ne voudrais sûrement pas d'enfant, mais tu es mon amie pour la vie.
La seule amie qui parle sans murmurer. Pour toute la vie, depuis que nous sommes nés. La seule fleur dont l'odeur me vient donner.
À l'instant, c'était Griffe avec le titre « Sœur d'Oranger ». C'est une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, qui est le programmateur musical de la radio associative Canal B. Pour présenter un peu Griffe, c'est un duo pink-punk qui nous vient d'Orléans. Leur premier album, un 13 titres, invite à se prendre dans les bras et à hurler dans la joie. On a besoin de ça. On arrive à la fin de l'émission Vers des Terres, mais il nous reste un peu de temps pour des recommandations de ressources. À chaque fois, ce sont des conseils de choses à lire, à écouter, parfois d'événements à vivre aussi. Là, on commence avec une série animée en 52 épisodes à découvrir à partir de 6 ans, et c'est une création en partie rennaise. Donc on est d'autant plus content d'en parler. La production est en effet signée Vivement Lundi, ça c'est pour Rennes. Une autre structure, Superprod, qui est installée du côté d'Angoulême, a également porté la production. Depuis l'automne 2025, les enfants peuvent donc regarder Compostman et moi sur la plateforme de France Télévisions Ocou, mais aussi à la télé sur France 3. Comme son nom l'indique, Compostman est un compost géant et bien vivant qui débarque chez Charlie et Zach pour les aider à prendre soin de la planète, à s'amuser et s'émerveiller face à la nature, à s'insurger aussi quand elle est en danger. Extrait.
Et à quoi ça sert d'avoir 10 paires de baskets alors qu'on ne peut en mettre qu'une seule à la fois? Regarde-moi, je n'ai besoin que de l'essentiel. un peu d'herbe, quelques épluchures et mes amis.
Oh, tu as raison, Compostman.
Oui, je sais.
On va donner tout ce qui ne sert à rien. Vos vêtements et vos objets ont droit à une seconde vie. Venez les déposer à la recyclerie. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais chercher Léon, je suis sûre que l'idée va lui plaire. Tu peux participer, Zach, on va bien s'amuser.
Vous me frappez avec une brosse et ensuite vous osez me demander de l'aide.
Allez, Zach, s'il te plaît.
Bintou, ben voilà. Oh, quel dommage, hein. J'ai déjà promis à Bintou de passer la journée avec elle.
Bon, des ressources qui présentent l'écologie, que ce soit sous un angle pédagogique ou qui en font carrément un décor, il y en a beaucoup. Je pense au très beau film d'animation Arco, réalisé par le français Hugo Bienvenu et lauréat d'un Oscar et de plusieurs Césars en 2025. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez-y. Comment parler de l'effondrement avec ses enfants? C'est une question plus large que se posait déjà en 2022 la journaliste Delphine Saltel dans un épisode du très bon podcast « Vivons heureux avant la fin du monde », c'est chez Arte Radio. Je vous laisse donc avec un extrait de cet épisode, le numéro 12, où elle se demande « Comment parler à nos enfants de la crise écologique sans leur refiler une angoisse trop lourde à porter ?» La réponse est à découvrir en compagnie de l'autrice jeunesse Marie Pavlemko dans un épisode d'une trentaine de minutes. Mais pour faire court, spoiler alerte, c'est une question d'éducation, mais aussi de récit et de fiction.
Je leur explique que 75% de la masse des arthropodes, c'est-à-dire les insectes et les araignées, a disparu depuis 20 ans en Europe. Ça veut dire que si on récolte toutes les petites des insectes et toutes les petites araignées, et qu'on les met dans un grand filet, on en enlève les trois quarts, et c'est ce qui nous reste. Donc, le monde bourdonnant dans lequel j'ai grandi n'existe plus. Et ça, c'est une étape capitale, finalement, de la prise de conscience, parce que comment savoir que quelque chose disparaît si je n'ai pas connu le monde d'avant ?
Cette question qu'elle pose là, Marie Pavlenko, elle est beaucoup plus grave qu'elle en a l'air. Parce qu'elle soulève un problème énorme, auquel personnellement j'avais pas été fichue de penser toute seule. Un problème qui s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale. Oui, c'est un peu ronflant comme dénomination, mais en fait, vous allez voir, ça désigne un phénomène assez simple, qui a été établi au début des années 2000 par un psychologue américain de l'université de Washington, Peter Kahn. L'amnésie environnementale générationnelle, c'est le fait que chaque génération prend l'environnement naturel qui l'entoure comme cadre de référence normal, quel que soit l'état dans lequel il se trouve cet environnement. Donc, si, mettons, vous grandissez à une époque où ça fait belle lurette qu'on n'a plus vu de lucioles les soirs du mois de juin, eh ben, vous faites avec, ou plutôt sans. Mais ça ne vous manque pas, puisque vous n'avez rien connu d'autre. Voilà, c'est tout bête, hein? Sauf qu'en termes politiques, ça a des conséquences extrêmement graves. Puisque ça veut dire qu'au fil des générations, au lieu de prendre conscience de la dégradation de la nature, on s'y acclimate. Et ça peut nous rendre incapables de saisir l'ampleur de l'effondrement.
C'était le 9e et dernier épisode de la saison pour Vers des Terres. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Peut-être que ça vous a donné des idées ou envie de vous mettre en mouvement. Vers des Terres, c'est une émission réalisée bénévolement, à écouter chaque mois sur Canal B, Radio Boa et en podcast sur Deezer. Pas d'émission durant l'été, on se retrouve peut-être à la rentrée, peut-être pas. Il faut encore que je me décide. Quoi qu'il arrive, la rentrée qui vient promet d'être un brin désagréable du point de vue politique. Alors plus que jamais, prenez soin de vous envers et contre tout. Salut.